pour être compte, donc nous allons commencer cette table ronde intitulée Le réseau, une liberté surveillée, point d'interrogation. Alors vous voyez que comme on a une question qui porte sur deux termes, liberté surveillée, l'interrogation peut potentiellement porter sur les deux termes. C'est-à-dire que notre question, elle a deux volets. Le premier volet, c'est est-ce que le réseau est un espace de liberté ? Est-ce que ça nous donne de la liberté, plus de liberté, en quoi, pourquoi, etc. Et un deuxième volet qui est, cette liberté, à supposer qu'elle existe, est-elle surveillée? Si elle est surveillée, comment? Si elle est surveillée par qui? Et jusqu'à quel point? Et à partir de quand est-ce qu'il faut s'interroger sur les dangers potentiels que cette surveillance peut faire peser sur la liberté? Donc on va faire porter cette table ronde sur ces deux aspects. On va d'abord s'interroger sur les rapports entre le réseau et la liberté, et ensuite nous nous interrogerons sur la surveillance du réseau et les contrôleurs éventuels qui peuvent se trouver derrière cette surveillance. Alors commençons par le premier volet. Nous avons avec nous donc Jean-Marc Ligny, ici présent, Roland C. Wagner et Christophe Lambert, qui sont tous les trois des écrivains qui ont travaillé un petit peu sur le thème des réseaux, avec des romans cyberpunk, des romans au moins qui touchent à ce domaine-là. Donc je vais les interroger sur tout ça. Alors commençons par Jean-Marc, puisque tu te trouves à mon extrême gauche. Donc Jean-Marc, sur cette question, est-ce que tu pourrais nous dire pour toi, en tant que créateur et en tant que citoyen, en quoi le réseau peut nous fournir un espace de liberté, s'il nous en fournit un, dans quel domaine et sur quels aspects?
Ça dépend. De quel réseau on parle?
Alors, commençons par parler d'Internet, ça sera voilà, possible, et après on élargira.
Bon, effectivement, Internet, c'est une espèce de fourre-tout gigantesque qui peut, dans certains cas, être un réel vecteur de liberté, effectivement. Je pense notamment à certains pays dirigés par des dictatures ou des régimes totalitaires qui ont... à chaque fois, sans succès, heureusement, tenter de fermer ou de juguler l'accès à Internet, et donc qui n'ont pas réussi, et grâce à ça, grâce à Internet en général, on arrive à savoir ce qui se passe dans ces pays, ou alors le réseau qui peut servir à organiser une résistance, je pense notamment aux Indiens du Chiapas, par exemple, qui fait connaître leur lutte grâce à Internet essentiellement. À tout ce qui se passe en Amérique latine, justement, comment les dictatures se sont renversées, comment des régimes plus ou moins socialistes se sont installés à la place, etc. Moi, je pense qu'Internet est pour une bonne chose. Comment, en fait, Internet véhicule tellement d'informations qu'effectivement, on peut estimer que c'est une énorme liberté qu'on a accès. Mais, il y a le revers de la médaille, je dirais, qui est justement ce flot continu d'informations qui peut également noyer le poisson. On peut devenir très blasé sur l'état du monde rien qu'en parcourant, les sites de news, infos, les news groups pendant 2 à 3 heures. On peut devenir aussi... on a l'impression que le monde devient tellement apporté que du coup... on en éprouve un certain détachement. Tout ça devient quelque part irréel. Donc, cette liberté pratique qu'Internet apporte peut être déréalisée par l'isolement que ça procure.
Est-ce que c'est pas même carrément le rapport à l'information qui a changé? C'est-à-dire qu'auparavant, on avait une source d'information, l'information circulant de façon verticale, on va dire, depuis les sources jusqu'au peuple, alors que maintenant on a une information qui circule plus de façon horizontale.
Oui, et qui du coup devient effectivement incontrôlable, donc, et parfois même invérifiable. Donc des fois, il peut circuler sur Internet des rumeurs fantastiques qui ont le même poids au niveau... je dirais presque au niveau médiatique, si on peut dire, qu'une information réelle est effectivement vérifiée. Bon, Internet a permis, par exemple, le développement de ce fameux complot de l'après du 11 septembre, qui a eu...
Le complot, c'était avant le 11 septembre.
Continuons, non. On lance pas une idée comme ça sans la développer.
C'est simple, s'il y a eu un complot aujourd'hui, ça a été avant, pas après.
Non, mais je ne fait pas un complot après un attentat pour provoquer un attentat.
Je parle de la parano, anti-complot qui s'est développé grâce à Internet, justement.
Ah, le mythe.
Le mythe. Voilà. Donc, Internet véhicule tout n'importe quoi. Effectivement, le rapport à l'information a changé. Et je ne suis pas certain que les gens aient eu le temps de s'éduquer à ce changement, c'est-à-dire à savoir faire eux-mêmes le tri dans tout ce qu'on peut recevoir. Parce que, avant Internet, en fait, l'info était facile. Il y avait la télé ou la radio qui était ou la voix de son maître. Donc, selon qu'on était pro ou anti-gouvernemental, on disait ils disent la vérité ou ils racontent quelle est connerie. Bon, après, il y avait les journaux de divers courants et de diverses opinions, donc les gens achetaient plutôt le journal le plus proche possible de leur opinion. Maintenant, sur Internet, on a tout. Et exactement au même niveau de réception, si je peux dire. Donc, cette totale liberté peut être aussi quelque part une forme d'aliénation. Parce qu'après, on voit bien la guerre que se livrent d'énormes groupes industriels pour le contrôle de l'information sur Internet, pour avoir les plus gros tuyaux, par où passent au plus fort débit, ceux qui font le plus de bruit, qui ont le plus d'images flashantes, etc., etc., pour essayer de capter effectivement cette information. Alors ceci dit, si on apprend, si on sait chercher, effectivement, on découvre de tout autre monde. Et je dirais même que le rapport à la création, à notre art, à nous autres auteurs, il a changé grâce à Internet. Hein.
Roland, sur cette même question, du réseau comme espace de liberté ou non ?
Alors déjà, il y a un concept qu'il faut évoquer, c'est le concept de neutralité du net. Le net est neutre. Le net n'est pas par définition un repère de pédophile. Le net n'est pas par définition un repère de terroriste où on peut trouver des recettes pour fabriquer des bombes. Le net est neutre. Les gens qui disent « Internet, ça craint totalement, c'est des cons ». Les gens qui disent « Ah, Internet, c'est super, c'est des cons ». Internet, c'est tout ça à la fois. À la fois, ça craint, et à la fois, c'est vachement bien. Internet, c'est la société humaine qui se balade sur le réseau et qu'on trouve sous forme de 0 et de 1. En gros, c'est ça. Donc le concept de neutralité du net est super important, parce que ça veut dire que on n'a pas à... ça veut dire que le réseau en lui-même est neutre. Et ça c'est un concept qu'il faut bien se mettre dans la tête, parce que tous les crétins qui sont en train de nous pondre des lois dans le truc qui s'appelle l'Assemblée nationale et le Sénat, par contre, ils n'ont pas compris. Donc la neutralité du net est très importante. C'est celle c'est à partir de ce concept, par exemple, que les gens qui gèrent les tuyaux ne sont pas responsables du contenu qui circule dans les tuyaux. Parce qu'on ne peut pas leur demander de
contrôler.
On ne peut pas leur demander de tout contrôler a priori. Ça peut être contrôlé après, c'est des lance clés, mais bon. Pour ce qui est de la liberté, Jean-Marc qui parlait tout à l'heure, il disait que ça a été vachement bien dans les dictatures, on a réussi à contourner tout ça, et grâce à Internet, ouais, c'est super. D'ailleurs, les méthodes de flûtage ont été inventées pour ça, c'est super, parce que maintenant, c'est les pédophiles, les terroristes qui les utilisent pour communiquer, et bientôt, ça sera les mecs qui veulent télécharger illégalement des films et des disques qui vont le faire. C'est-à-dire qu'en fait, Internet est foutu de la manière suivante, et ça, on ne peut rien. C'est plus on essaye de le cliquer et de le contrôler, et plus il y a de... techniques pour contourner, qui dans un cas sont considérées comme très positives, permettre à un dissident chinois de consulter Google ou d'aller sur la baleine, de poster dans le monde entier, tout le monde va dire c'est vachement bien. Ouais, mais si le mec c'est pas un dissident chinois, que c'est un pédophile, ah c'est pas bien, ah ouais, mais par rapport au net, c'est neutre. C'est deux utilisateurs, ils devraient être très séparés.
Ben, Internet c'est un outil en fait, hein. c'est ni plus ni moins qu'un outil, c'est comme...
C'est sûr, quand tu m'as filé un coup de marteau sur la tête, c'est pas au marteau que j'en ai voulu, hein.
Tu dis Internet, c'est neutre, tout à fait, comme la décomposition radioactive de l'uranium est neutre. Après, on voit ce que les humains en font, quoi. c'est...
Et le monde, il est neutre, et tu vois bien ce que les humains, ils en font, c'est pas beau, quoi. Ben, c'est pas parce que les gens, ils font des choses pas belles avec Internet. D'abord, on parlait de liberté, c'est quoi le deuxième truc déjà ?
Après, ça sera surveillance.
D'accord. En fait, l'erreur est humaine.
Ben, le truc, en gros, c'est que bon, Internet, ça a quand même été une espèce d'espace plus ou moins anarchisant pendant un certain temps. Et là, il y a des gens qui essayent de mettre de l'ordre. Et en fait, essayer de mettre de l'ordre là-dedans, je veux dire, c'est comme essayer. Vous connaissez la théorie du chaos ? Hein ? Ben, c'est un peu comme essayer de trouver quels sont les battements de papillons qui vont provoquer des tornades. Et arrêter les milliards de battements de papillons pour empêcher que les tornades se déclenchent. Quand on arrivera à la surveillance, tout à l'heure, je vous parlais d'un truc, ça tient en trois syllabes, c'est A-D-O-I. Certains d'entre vous connaissent peut-être, ceux qui ne connaissent pas, ben,
tu leur en parleras.
Je vous expliquerai tout à l'heure, c'est vachement bien, c'est ce que notre gouvernement est en train de nous préparer, contre l'avis de l'Assemblée européenne, c'est génial. Merci Nicolas.
Alors avant de dire merci au petit Nicolas, nous allons passer la parole au petit Christophe. Il va nous dire ce qu'il pense de cette question en tant que créateur, peut-être Christophe.
Alors liberté, comment dire, j'ai l'impression qu'effectivement on a une offre infinie, on peut, en tout cas une souplesse d'accès à l'information qui est appréciable. On pourrait balinoder comme ça et s'ouvrir sur le monde, mais en fait j'ai l'impression que c'est une liberté limitée parce qu'on en profite plus pour se replier sur ses propres centres d'intérêt. Ça m'évoque plus le repli communautaire. Et finalement, est-ce qu'on a vraiment la curiosité d'aller voir ailleurs ?
Ça, Jean-Marc le disait déjà, hein, si l'homme était vraiment épris de liberté et de vérité, les gens de gauche liraient des journaux de droite et les gens de droite liraient des journaux de gauche. Or, les gens ont toujours lu d'abord des journaux qui se rapprochaient de leur centre d'opinion. Donc, est-ce que c'est pas la continuation finalement de ce qu'on avait déjà avant ?
Oui, c'est la continuation avec un nouvel outil, un outil plus vaste, plus performant.
Et en tant que créateur, toi, est-ce que tu te sers d'Internet pour, par exemple, aller chercher des sources d'information ou aller chercher d'autres textes qui pourraient t'inspirer ?
Oui, je m'en sers. C'est vrai que c'est appréciable, mais j'essaie toujours de recouper avec une info papier. Une espèce de crainte, justement, comme on trouve tout et n'importe quoi, les erreurs allant de l'orthographe à des choses beaucoup plus graves. Il vaut mieux recouper à sa bonne vieille médiathèque le quartier. Donc ça me... Il y a un premier écrémage qui se fait grâce à Internet, je googlise comme tout le monde, mais j'essaye de double valider.
Comment tu fais quand tu googlises et que tu veux avoir quand on parle de toi et pas de ton homonyme? T'as un truc de
mes... C'est très compliqué.
De mes homonymes, si on avait qu'un encore.
Quand on fait une recherche sur Christophe Lambert, c'est tout ce qu'on trouve.
Il y a un publicitaire sarkozyste.
Non. Tu sais, je pense qu'il est général UFP.
Alors, Roland, justement, parle...
Ah, je voulais prendre un exemple, attends, je vais juste dire un truc, voilà, c'est pour la vitesse de l'information, l'accessibilité, et tout ça. Je vais prendre deux exemples très très rapides. Il y a deux mois, ma fille a volé le générique de Nana, le manga, là, pour ceux qui connaissent. Bon, il m'a fallu environ 20 secondes pour le trouver sur le net. Okay. Avant-hier, je voulais vérifier un truc par rapport à un disque qui a été enregistré par Timothy Leary, le pape du LSD, en 1966, que j'ai dans ma discothèque, et comme ma discothèque n'est pas rangée et qu'elle est abondante, je n'arrivais pas à trouver le disque. En 15 secondes, je l'ai trouvé sur le net. Évidemment, sans le payer, je n'ai pas acheté un truc que j'ai dans ma discothèque. N'empêche que c'était vachement plus rapide d'aller sur le net, de taper Timothy Leary, sur Dropout, Blogspot pour le trouver, et de le télécharger direct, que d'aller chercher dans ma discothèque. C'est quand même super pratique. Et l'autre exemple, c'est les Beatles. John Lennon et Paul McCartney, à la fin des années 50, ils n'avaient pas de sous pour s'acheter des disques. Les disques étaient chers à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de radios. De trois chaînes, pas plus. Quand ils voulaient lire un morceau qui les avait branchés, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ben, ils attendaient devant le poste jusqu'à ce que le morceau y passe. Et quand le morceau y passait, pendant les trois minutes où il passait, ils ne pouvaient pas l'enregistrer, ils n'avaient pas le disque. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se dépêchaient d'essayer de trouver les accords. Et comme ils ne les avaient pas tous, et ben ils étaient obligés d'attendre que la fois suivante le morceau passerait, s'il passait. Alors, mettez cet exemple-là en comparaison à ce que je viens de dire.
Il y a un philosophe italien qui a dit justement que grâce à Internet et à tout ce type de réseau de partage, En fait, on était rentré dans une ère de potentiel prolétarien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce que nous permettait Internet, tout le monde pouvait finalement aspirer à faire de la création, aspirer à avoir accès à la création. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée?
Effectivement, tout le monde peut être créateur. Internet offre un tas d'outils gratuits ou piratés ou piratables pour le faire, que ce soit en ligne.
Téléchargeable voilà. En dehors du cadre strict de la
création. Je milite contre l'emploi du pirate, parce qu'un pirate, qui te prend un truc, tu l'as plus. Et en général, il prend ta vie avec. Alors que moi, je suis désolé, mais je connais personne qui s'est fait prendre des trucs, enfin, moi, quelqu'un qui télécharge des MP3, la MP3 d'origine est toujours là.
Et c'était quoi la question que tu m'as dit?
La question, c'était le prolétariat.
Voilà, effectivement, tout le monde a... peut être créateur, mais ça revient au même un peu que, comme on disait, quand les synthétiseurs ont commencé à se démocratiser, on disait que tout le monde peut être musicien parce que c'est facile de programmer un synthétiseur. Tout le monde ne devient pas musicien quand on voit les tonnes de soupe qui peuvent être produites par les synthétiseurs et les tonnes énormes de conneries qui peuvent être diffusées sur Internet par des gens qui se prétendent artistes. La technologie n'a jamais remplacé le talent créatif et la création. C'est vrai que ça devient plus facile maintenant. Effectivement, avec les musiciens, on n'a pas les moyens de s'acheter une guitare à 10 000 euros ou tel instrument, un piano, un violon, une batterie, etc. On a un ordinateur, on a un logiciel, on peut télécharger des banques de sons ou de données sur Internet et on peut tout de suite bidouiller, s'amuser avec à faire du mix, etc. Mais si on n'est pas doué, si on n'a pas de talent, si on n'a pas d'idée, avec les meilleurs ingrédients, on fera toujours le même bouillie, quoi.
Donc la liberté de pensée, elle ne se crée pas grâce à Internet?
Non, Internet peut aider à la création, mais ne la remplace pas.
Roland, tu voulais...
Oui, je voulais dire que vous pouvez tout me prendre, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser.
Christophe.
Tout le monde peut être créateur, tout le monde peut être journaliste. On parlait d'information tout à l'heure. Vous prenez aussi téléphone portable et vous avez autant d'impact que le dernier prix Pulitzer. On voyait les images du tsunami, on les voyait sur Internet avant même qu'elles soient aux infos de
l'internet. Fais gaffe, parce que si tu filmes des flics en train de taper un mec, il y a une loi qui dit que c'est comme si c'était du slapping et tu risques 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende, un truc comme ça.
Cette intégration de l'individu dans l'information est quand même très problématique, parce qu'il y a ce que dit là,
c'est pas problématique, notre gouvernement est en train d'arranger ça, ils vont créer un label pour les sites, un label gouvernemental pour les sites, et quand vous irez sur un site qui aura ce label, vous saurez, vous n'irez pas, parce que moi, on n'est pas le label sur un site, je vais voir ailleurs direct, et vous saurez que ce site a été certifié par le gouvernement. Donc, là, il y a quand même un moyen de s'y repérer, quoi. Si le site a été certifié, c'est qu'il ne faut pas y aller.
Oui, bon, on a déjà un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on a déjà les sites des journaux officiels, et puis on a vu 89, et c'est clairement pas les mêmes infos qui circulent quand même sur les différents
sites. C'est vrai, mais je voudrais quand même préciser que tu dis les journaux officiels, mais le site du journal officiel est quand même le plus fiable.
Les journaux officiels, tu vois bien ce que je voulais dire.
Le Figaro et Le Figaro.
Voilà, en gros.
J'ai oublié l'idée.
Alors, dans vos livres, hein, je parle notamment à Jean-Marc et puis à Christophe, vous avez tous les deux, tu t'en vas pas, toi qui suis, vous avez tous les deux distingué deux types de personnes dans l'humanité. Alors, chez toi, Jean-Marc, c'est les inners et les outers. Chez toi, Christophe, c'est les plugged et les unplugged, dans vos différents livres. Alors, justement, quels sont ceux qui ont le plus grand sentiment de réalité et quels sont ceux qui ont la plus grande liberté, pardon, et quels sont ceux qui ont la plus grande liberté réelle dans vos livres?
Si tu parles d'Inner City, je suppose, et de ses suites, et de ses préquelles, c'est pas les mêmes, en fait. Il y a ceux qui, effectivement, qui pensent avoir le plus grand sentiment de liberté, d'interactivité, d'individualité dans la vôtre réalité qui est la réalité virtuelle. Et puis ceux qui, effectivement, n'ont pas les moyens de se connecter et qui donc se coltinent le monde réel dans toute sa crasse, sa rudesse et son manque de réactivité, justement. Ceci dit, effectivement, la liberté de l'inner, donc du plein, ou du nerf, ou du dit, comme par exemple, j'ai tout entendu, de créer une réalité virtuelle et de s'ébattre dedans seul ou avec ses petits camarades réels ou virtuels, elle est tout aussi illusoire que, et plus pernicieuse à mon avis, que la liberté dont on peut se sentir investi quand on
scrutine la vraie vie.
Oui, non, même quand on scrutine un autre univers virtuel qui peut être celui d'un bouquin ou d'un film, par exemple. On est tellement pris dedans, on va s'identifier au personnage. Bon, l'histoire va se dérouler sous nos yeux, on va être investi dans l'aventure. Et puis bon, du fait qu'on ne peut pas la modifier soi-même, effectivement, on va être ravi ou déçu, ou on va émettre un avis critique sur la fin de l'histoire, parce qu'on n'aurait peut-être pas imaginé comme ça. Mais la liberté qu'offrent les univers virtuels sur Internet, à mon avis, c'est effectivement, comme disait Roland tout à l'heure, c'est la liberté de placer les héros et les armes dans un sens ou dans l'autre. On est complètement dans les réalités. Et
ce qui est étonnant, c'est que ce 0 et ce 1, au bout du compte, ils ont un sens.
Ben, ils se traduisent en dollars. Et on voit ce que ça donne quand on virtualise trop. Quand on joue trop dans les réalités, que la réalité nous rattrape, ben, ça fait mal, quoi. Là, je vois, peut-être avec le développement d'Internet, effectivement, a permis. Le développement de cette spéculation financière effrénée qui s'est fait durement rattraper par la réalité tout d'un coup, parce qu'on s'est rendu compte que tous ces gens-là jouaient avec de l'argent qui n'existait pas. Moi je dirais pareil pour les ineurs qui peuvent passer des heures et des jours dans une fausse réalité. Ils peuvent se construire un monde extrêmement chatoyant avec les moyens qu'on leur offre, donc qui sont déjà pré-digérés, si je peux dire. Qui vont se construire eux-mêmes avec des éléments donc, qu'ils ont à disposition, mais la réalité finira toujours par les rattraper. Et la dure réalité quotidienne, effectivement, qui ne se modifie pas d'un simple clic, on n'efface pas une personne qu'on n'aime pas en cliquant dessus, on ne transforme pas un mur en fenêtre en passant à travers, etc. etc. Donc voilà, pour moi, la vraie liberté. De toute façon, ne peut se situer que dans le monde réel, quelque part.
Et alors, Christophe, tes plugs, tes unplugs ?
Alors, les plugs et les unplugs, ça remonte à 7-8 ans, cette histoire, donc je vais essayer de bien refouiller dans ma mémoire.
Mets en place ton réseau neuronal.
Voilà, l'idée m'était venue en lisant un bouquin qui s'appelle La Source Noire, qui parle d'une hypothétique vie après la mort, et dedans, il y avait un chapitre consacré à une théorie d'un monsieur, un scientifique anglais, ou un pseudo-scientifique, je ne sais pas trop, qui s'appelle Rupert Sheldrake, et qui a émis la théorie des champs morphogénétiques. Alors d'après ce monsieur, plus une action est répétée sur Terre, plus elle s'inscrit dans une sorte de champ matériel qui entoure la planète. D'après lui, ça expliquerait que de génération en génération, par exemple, les enfants sachent de plus en plus facilement faire du vélo, ou les rats, vous leur mettez un labyrinthe type devant eux, et de génération en génération, ils trouvent de plus en plus facilement la sortie. Tout ça, ça serait grâce à ces champs morphogénétiques qui stockeraient le vécu et l'information, quelque part. Donc, alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, ça m'intéressait scénaristiquement parlant. Donc, j'imaginais que un magnat de la finance avait trouvé un moyen d'avoir accès à ce que j'appelais l'infosphère, si ma mémoire est bonne, donc ce champ morphogénétique qui entoure la Terre, et grâce à des médiums que j'appelais les connecteurs, des gens à qui on avait branché un petit implant dans le cerveau pouvaient se connecter à une somme de connaissances virtuelles qui se baladent autour de la Terre, c'est ça. Donc ces gens-là, c'est un peu la fracture informatique qu'on dénonce en ce moment avec des régions qui sont plus ou moins informatisées que d'autres. Les gens qui avaient un petit implant dans la tête avait accès à une sorte de super internet puissance 10 par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Vous fermez les yeux, vous récitez un mantra, et vous avez toutes les infos, toutes les images, en 3D, en odorama, en tout ce que vous voulez, grâce à ces médiums que j'appelle les conducteurs. Et puis bah, les gens qui n'ont pas d'implant, bah, eux, ils restent avec leur bon vieil internet haut débit ou bas débit, ou avec la médiathèque du coin. Donc à première vue, les plugs ont une palette et une richesse et un éventail de connaissances bien plus attractif et attrayant que le unplug. Sauf que le hic, c'est que quand il y a un virus sur votre ordinateur, ça peut être votre disque dur qui grille. Mais si c'est un virus dans l'atmosphère et que c'est votre implant qui grille dans le cerveau, c'est plus embêtant. Donc c'était vraiment un double tranchant. Une fois de plus.
Alors ça fait penser, Roland, cette fois, à ton info psyché dans les futurs mystères de Paris avec Gideon. Donc l'infoxication, on veut dire.
Ah ben lui, il est complètement intoxiqué aux informations, toujours. Enfin, c'est un type, il passe son temps dans un fauteuil de la NASA, devant 20 écrans, avec des 20 pistes de son en même temps, et il prend les accélérateurs neuronaux pour être capable de tout appeler en même temps. Mais bon, c'est plus une métaphore qu'autre chose, hein, j'ai des coups. Ben, quoi, on t'en parle. Je disais, c'est plus une métaphore qu'autre chose, quand même. Enfin, je veux dire, physiquement, c'est pas possible. Maintenant, des gens qui vivent dans des flux d'informations en permanence, ouais, c'est clair qu'avec le net, c'est de plus en plus facile. On peut s'abonner à 50 000 flux RSS et puis...
Alors, bon, pour l'aspect liberté, hein, vous voyez, vraiment très très partagé. C'est-à-dire qu'effectivement, Internet n'est qu'un outil, les réseaux, de façon générale, ne sont qu'un outil qui nous donne accès à une multitude de choses, avec le risque de s'y perdre. Donc, dans ce cas-là, c'est plus vraiment de la liberté. Avec le risque aussi d'être noyé dans toute cette information qui circule de partout, et avec ce risque aussi dont on parlait, de voir des fausses informations se répéter, être reprises dans d'autres endroits, et lorsqu'elles sont corrigées, avoir déjà été tellement répétées de manière fausse que c'est trop tard pour rectifier le tir.
Pour les fausses informations et les rumeurs, allez sur upbusters.org,
oui.
C'est impeccable, alors là, c'est des mots toutes les rumeurs.
Ça recense toutes les fausses choses qui circulent. Non, mais je pensais par
exemple, Nicolas n'a pas envoyé de SMS à Cécilia.
Alors, venons-en à l'aspect surveillance.
Maintenant. Ah, ben voilà, super. Alors,
voilà. Vous parler de tout ça.
Alors, je vais vous résumer rapidement ce qui est le feuilleton totalement épique de la loi Adobe qui est en discussion au Sénat en ce moment. Et là, on n'est même plus dans le surréalisme ou le délire total. Je veux dire, c'est carrément la lutte de drogue pure. En gros, Denis Oliver, ancien PDG de la FNAC, auteur d'un livre merveilleux qui s'appelle La gratuité, c'est le vol, titre au premier degré, bien sûr, a été nommé pour avoir une mission par le gouvernement, et alors ils ont réfléchi, et puis ils ont fait signer des trucs à des gens, et puis ils en sont arrivés à la solution que le mieux, pour empêcher qu'on télécharge illégalement, ben, c'était de surveiller tout le monde. Alors, surveiller tout le monde, il y a plusieurs manières. Hein. On ne sait pas encore comment tout à fait ça va se goupiller, mais bon, déjà, il semblerait acquis que des gens qui ne sont... qu'avant l'intervention d'un juge, une autorité administrative s'occupera de contacter les gens en leur disant « Vous avez téléchargé illégalement, on va vous couper votre accès Internet. » Puis une deuxième fois, il va être recommandé, puis boum. Peut-être qu'il n'y aura qu'une amende aussi, on ne sait pas trop. Et puis, l'autre possibilité, c'est par contre, ça serait une licence globale, mais ça, ils veulent pas en entendre parler, parce que ça voudrait dire que les artistes toucheraient de l'argent, mais les maisons puissent peut-être pas autant qu'elles voudront toucher. Parce que le gros mensonge, en fait, c'est qu'on n'arrête pas de nous répéter que c'est pour sauver les artistes, mais les artistes, là-bas, ils portent très bien.
C'est pour sauver l'Universal.
C'est les producteurs, c'est la SACEM, c'est tous les gens qui récupèrent du pognon sur le dos des artistes. Si vous voulez sauver un artiste, vous avez qu'à lui envoyer 10 euros directement, quoi. C'est pas le mettre acheter son disque. Le disque, vous le téléchargez illégalement, ouais, parfaitement. Et puis après, vous envoyez des sous à l'artiste directement, s'il ne fera plus.
Je peux citer un exemple à ce sujet-là.
Oui, bien sûr.
Celui de 33 Nord et Nine Inch
Nails. Oui, oui, excellent.
Voilà, donc 33 Nord et Nine Inch Nails, c'est un groupe de rock. Bref, peu importe. justement en conflit avec sa dernière maison de disques, a décidé de s'en passer et de vendre directement son dernier album.
Non, il n'a pas vendu directement, il l'a mis sur le net sous licence Creative Commons. Ouais. Ce qui signifie qu'on n'est pas obligé de l'acheter. Et que comme on
peut le télécharger
sous licence Creative Commons non commerciale, etc., je ne sais pas ce qui est là, on peut même le mettre sur son site à télécharger en disant j'ai l'album de Trail Fredner, Magnus Mail et tout. Et personne ne peut rien te dire parce que la licence Creative Commons t'autorise à le faire.
Voilà. Et donc il a mis son album sur décembre, tout le monde pouvait le télécharger gratuitement. Il y avait une version où on payait pour une somme modique, je crois que c'était 5 dollars.
Le plus intéressant, c'est la version à 200 dollars, coffret 5 livres et tout ça.
C'est le pied.
Laisse parler
de l'émission. Pour 5 dollars, on avait l'album en boîtier cristal avec la pochette, etc. Je crois pour 15 ou 20 dollars, on avait le double DVD avec coffret, machin et tout. Et pour effectivement 200 dollars, on avait l'édition super luxe avec 3 CD, 5 CD, des vinyles, des vidéos, des machins, des posters.
La boîte en cuir.
Et dans une boîte en cuir. Et l'édition collector, il en avait été tiré un nombre limité d'exemplaires, je ne sais plus combien, est parti en moins d'une heure sur Internet.
Il avait entre 2 et 5 minutes.
Entre 2 et 5 minutes. Et les autres éditions sont parties également assez bien, dans la mesure où M. Trump président en question, en vendant directement son album sur Internet et en offrant donc, comme on vient de le dire, le téléchargement de la musique uniquement gratuitement, il s'est quand même fait 2 millions de dollars, le bonhomme.
Ouais, mais il n'est pas con, parce que...
Ils ne sont pas tombés dans les mains, effectivement, d'une compagnie de disques et de
con. Il n'est pas con, parce que, je veux dire, du MP3, il faut le dire ce qu'il sait.
Et avant
de la merde.
Avant de le faire lui-même, il avait fait l'expérience avec un autre gars, un rappeur, je crois, et on lui disait, malheureusement, on a échoué, il s'est fait que 650 000 dollars, le pauvre gars. Je trouvais que bon, là c'était pareil, c'était, je crois qu'il proposait le téléchargement de l'album entier à 1 dollar ou un truc comme ça. Donc, pour être libre, voilà, on donnait ce qu'on voulait. Et ça commence à se développer. Maintenant, la production elle-même peut se faire sur Internet. Il y a des artistes qui se passent de producteurs, qui lancent un appel. On peut, sur certains sites, les donner l'argent qu'on veut, hein, ça va de 1 euro à 1000 euros ou plus, et on participe à la production d'un artiste qu'on va bien aimer, de ce qu'on a écouté, des échantillons, de ce qu'il a fait, etc.
Justement, au sujet du projet dont tu parles, ils ont produit leur premier artiste, et honnêtement, il est moins bon qu'un mec qui a gagné la skate la Starac quand même.
Mais peu importe, enfin, si tu veux, pas peu importe, mais la qualité viendra, mais c'est le principe, moi, ce que je défends. Après, bon, chacun a ses chances, hein. On est bon, on n'est pas bon, on plaît ou on ne plaît pas, mais ça c'est... Mais c'est le principe que j'ai prends là, effectivement l'empire des majors est à terme est condamné. Et donc elles font ce qu'ils veulent, sont direct des dinosaures attaqués de toutes parts par les fourmis qui essayent de se défendre encore.
Et qu'ils font un lobbying absolument forcené, c'est-à-dire que... Moi je me souviens d'avoir été étonné à la fin des années 70 de découvrir que les groupes aérosols diminuer la couche d'ozone. Ça m'a étonné, sans plus. Mais là, si on m'avait dit que 1984 et la surveillance de tout le monde et que ça viendrait, que le cheval de Troie qui serait employé par les fachos pour nous faire avaler ça, ça serait l'industrie culturelle et la préservation des revenus de Johnny, il ne faut quand même pas déconner, quoi. Là, on est en train d'essayer de tous nous fliquer. Et alors, en plus, là où ça devient vraiment bizarre, c'est que comme chacun sait, peut-être que vous ne le savez pas d'ailleurs, dans le projet original de la loi, il n'y avait pas moyen de se défendre, vu que tout ça se passe avant l'intervention d'un juge, y compris la culture d'accès Internet et tout ça. Mais si on ne peut pas se défendre, on va se retrouver, y a énormément de gens qui vont se retrouver sur simple dénonciation. Alors, savez-vous qui recueille les adresses IP pour dire machin, il a téléchargé, il a partagé illégalement tel truc? Ce sont les représentants des ayants droit. Une milice. C'est-à-dire qu'on est en train de privatiser la chasse aux téléchargeurs illégaux sur le net
ce qui est un premier cheval de Troie pour privatiser d'autres actions qui normalement devraient passer par la justice. Et il y a eu un amendement qui a été voté dans le paquet télécom européen, l'amendement 138, proposé par le député Bonneau et Daniel Cohn-Bendit. Et cet amendement dit que on ne peut pas supprimer les droits fondamentaux des gens pour des raisons... Ah bon, en gros, on ne peut pas couper l'accès à Internet de quelqu'un sous prétexte qu'il a téléchargé. Et là où la loi est encore plus vicieuse, c'est que ce qu'on va reprocher, si vous recevez un truc de l'Adobe dans les prochains mois, ça ne va pas être d'avoir téléchargé, ça va être nous avons relevé votre adresse IP qui proposait tel fichier sur tel réseau. Alors petit 1, j'ai relevé d'adresse IP sur sa vie. Petit 2, ces relevés ne seront pas réalisés par des gens qui sont des employés de l'État, mais par une espèce de milice. Petit 3, un site de lien qui s'appelle The Pirate Bay, en Suède, a décidé de balancer tout un tas d'adresses IP bidons avec les fichiers illégaux, évidemment, qu'ils proposent. Donc on se retrouve, nous avons une loi qui est inapplicable. Un amendement qui a été voté par 88%, l'amendement 138, c'est 88% des députés européens présents. Et il y en avait beaucoup, c'est-à-dire ça représente 530 personnes pour voter pour cet amendement qui met fin à la riposte graduée. Eh bien non, ils continuent, et là ils en sont à parler, que pour vérifier que les gens ont bien sécurisé leur ordinateur, on va leur mettre un petit spyware. Donc à faire le spyware, ils vont regarder ce qu'ils échangent comme fichier aussi.
C'est discuté au Sénat actuellement, d'ailleurs.
C'est discuté au Sénat actuellement, et c'est pas en train de s'arranger. Hein.
Moi, je crois que c'est...
On vit dans un truc de barjot toto. Non, mais je veux dire, maintenant, c'est clair, le NATO, il s'est fait élire avec, en drainant des mecs de l'industrie du spectacle. Maintenant, il leur prend la
parole. Oui, mais c'est même de l'industrie du spectacle. Et en fait, il y a
un...
L'industrie du spectacle, on l'emmerde, parce qu'un mec, c'est un gros con.
Il y a un conflit entre requins aussi, il y a un conflit entre, si tu veux, quelque part, Sony, Universal, etc., et un conflit entre Microsoft, Google, Mozilla, etc., les fournisseurs d'accès qui, eux, ne veulent pas du tout cette loi.
Mais à supposer même qu'elle ne passe pas...
En France, il n'y a qu'un seul fournisseur d'accès qui est opposé à cette loi, c'est Free. C'est normal, on lui a refusé la licence 3G.
À supposer même qu'elle ne passe pas cette loi, si on parle pas seulement des majors du spectacle, mais on va dire du commercial et de l'industriel de façon générale, est-ce que de toute façon cette surveillance, elle n'existe pas déjà? Je pense à AOL par exemple, qui avait laissé échapper un fichier en 2006 dans lequel il y avait quelque chose comme 20 millions de requêtes de 650 000 abonnés avec tout ce qu'ils avaient demandé sur le moteur de recherche, y compris toutes les recherches qu'on peut faire à certains moments, personne nue, etc., etc. Est-ce qu'à notre insu, on n'est pas déjà extrêmement fiché avec nos goûts, avec nos opinions, avec plein de choses?
Bien sûr.
Tu veux dire que quand j'ai mis 20 vidéos de Nicolas et Carla,
c'est terrible, tu es fiché maintenant.
Bon, et puis effectivement, les réseaux servent aussi à surveiller. Bon, là, on vient de parler de la dépit, mais bon, il y avait le système échant, il y a eu, comment il s'appelle, le dernier en date,
Edwige,
voilà, tout ça.
Edwige, c'est l'Edwige de l'Internet, parce que ça nécessiterait de créer un fichier des internautes censés avoir piraté, donc un nouveau fichier.
Mais la riposte existe déjà maintenant, les sites de peer-to-peer, enfin de partage de fichiers et tout, te proposent pour une somme magique évidemment, de rendre ton ordinateur anonyme en balançant une adresse IP cryptée sur la
base. Donc tu peux aussi aller sur Blogspot et puis récupérer et télécharger sur RapidShare aussi. Non mais je veux dire, le truc c'est le neveu des analytes. Les mecs ils ont un truc énorme, un bateau énorme, et t'as des millions de oiseaux dans le bateau, ils sont en train d'essayer de boucher avec des filtres de cigarettes, quoi. C'est grotesque. Il y a 3 ans, il y a eu un truc qui a été voté depuis 2006, ça s'appelle la loi DADDS. Droit audio, dérivés, voisins, machin, dans la société audiovisuelle, ou je sais plus quoi. Enfin, bon. Cette loi qui avait à l'époque, même qu'il y avait la licence globale qui avait été votée, ils sont revenus là-dessus parce que Nicolas n'était pas d'accord. Cette loi qui était censée mettre fin au piratage sur Internet il y a 2 ans et demi, qu'est-ce qu'elle a eu comme résultat?
Zéro.
Zéro. Zéro. Absolument rien.
Quand on discute avec des gens qui sont sérieux, c'est-à-dire des flics ou des douaniers qui sont en train de traquer les pirates sur le net, et eux ils te le disent, hein. Le mec qui va se télécharger ce fichier MP3, on n'en a rien à taper. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les gens qui vendent, d'une part, qui vendent, et d'autre part, les gens qui essayent de récupérer le plus tôt possible les films et les disques qui sortent ou quoi que ce soit. Donc ce qui se passe, c'est que l'autorité policière et en partie judiciaire, parce que les mecs qui font ça sont souvent des judiciaires, elle est concentrée sur les véritables pirates, c'est-à-dire les mecs qui se font du tout grâce au téléchargement pas légal. Et on nous passe des lois qui, elles, sont au contraire en train de se concentrer sur l'individu. Ah, c'est pas bien, hein, c'est pas bien, t'as téléchargé, toi. Ah, t'as téléchargé le dernier bruit des Spears. Attends, c'est pas bien. Ah, puis avec Johnny, t'as téléchargé Johnny. Ah, ça, c'est pas bien, parce que Johnny, eh ben, Johnny, c'est un copain à Nicolas.
Mais est-ce que c'est applicable, tout simplement, parce que si on commence...
Non, c'est pas grave, c'est du délire total, ils veulent envoyer... alors, là, je me rappelle plus les chiffres exacts, je crois que c'est 10 000... Ils veulent récupérer 10 000 adresses IP par jour, envoyer 3 000 emails d'avertissement et 1 000 lettres recommandées.
Couper 1 000 connexions par jour.
Et être capable de couper 1 000 connexions par jour. Sachant que si on vous coupe votre connexion, vous continuez à payer le fournisseur d'accès. Vous n'avez plus de net, mais vous payez. Hein. Parce que c'est un abonnement et puis pour attendre, vous n'êtes pas handicapé, c'est pour votre fournisseur d'accès. Donc, le problème, c'est que c'est... Alors, par rapport à cette loi, déjà, il faut financer. Parce que ça coûte de l'argent sur les LED, ça coûte de l'argent de récupérer les adresses IP, ça coûte de l'argent d'envoyer des recommandés et tout ça.
Il faut rappeler aussi.
Donc
que...
c'est deux impôts qui vont payer ça, je vous le rappelle, parce que ni les ayants droit, donc les vecteurs essentiellement, ni les fournisseurs d'accès ne veulent mettre la main à la poche. Et le budget de fonctionnement qui a été annoncé suffit à peine à couvrir un mois de fonctionnement.
Sans compter qu'on va quand même théoriquement payer pour un monsieur surveillance, hein, qui va être censé regarder un peu l'image du gouvernement sur Internet.
Ah bon,
parce que ça va être... Ah non, ça va être annoncé par le gouvernement.
Ça va être le label.
Oui, ça doit être ça.
Allez, n'oubliez pas, hein, pour les sites d'information, quand il y aura le label gouvernemental, faites-y bien attention, hein, parce que ça sera très important dans la part...
Mais moi, je trouve que le danger, effectivement, est là, en fait, c'est que... Finalement, cette espèce de loi bidon unique et inapplicable, comme tu dis, dans l'état actuel de la technique, est une espèce de test grandeur nature pour essayer de ficher ou d'avoir un accès facile à la navigation de tous les internautes. C'est effectivement 1984, numérisé. Là, c'est plus, il n'y a plus besoin de l'écran géant dans la maison. Il suffit d'allumer son ordinateur et puis... le gouvernement, ou plutôt des machines, des logiciels au service du gouvernement, devraient être capables, à terme, de pister n'importe quel internaute, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, et éventuellement, évidemment, dans un but sécuritaire, pour traquer à temps les éventuels terroristes et pédophiles, etc. En fait, bon, à partir de là, on peut effectivement repérer bah, tout militant politique, syndicaliste...
Est-ce que c'est pas justement notre traçabilité, en quelque sorte, qui a énormément augmenté, qui fait que cette surveillance, elle est en partie inconsciente et en partie consentie chez beaucoup de gens? C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout conscience que quand ils vont se connecter quelque part, lorsqu'ils vont donner des informations, etc., ces informations peuvent être stockées, réutilisées, etc., et en partie consenti, parce qu'on donne volontiers sur Internet un certain nombre d'informations, parce qu'on peut gagner un voyage, parce qu'on peut gagner ceci.
Mais voilà, ça c'est je dirais, c'est la carotte qui précède le bâton, quelque part. Effectivement, on donne sur Internet volontiers, on achète un objet, on joue à un jeu, on se connecte à un chat.
La fameuse phrase, vous êtes le 9000e, le...
Voilà, et puis on donne son adresse, son téléphone.
Il y a aussi les Facebook, hein. Il y a tous les adolescents qui donnent des éléments de leur vie privée sur leur blog ou leur Facebook.
Bien sûr.
Peut-être que dans 5 ans, quand ils vont chercher un employeur et que l'employeur pourra aller sur leur Facebook voir un peu...
Oui, tous les réseaux sociaux, finalement, hein, qui se créent sur Internet. Quoi.
Bien sûr, on rend compte de l'interprétation de la sphère privée.
Mais en même temps, se développent aussi des outils qui permettent de réduire au maximum, au minimum, les traces qu'on peut laisser sur Internet. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il faut déjà s'y connaître un petit poil, s'intéresser un petit peu à son ordi et à ce qui se passe réellement quand on se connecte à un réseau. Macron pour pouvoir arriver à effacer cette race, et maintenant il y a des tas de...
C'est pour ça que je disais, en conscience, en partie consentie.
L'option, c'est de noyer tout ça dans le bruit. Voilà, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des infos sur vous, vous n'avez pas envie qu'elles soient sur le net, ben, vous ne pouvez pas les enlever, par contre, je vais vous démerder pour rajouter plein d'infos contradictoires. C'est vachement rigolo, quoi, j'adore ça.
Bien, là, oui, on n'a même jamais passé l'heure, puisqu'on avait commencé un petit peu en retard. On va peut-être voir s'il y a des questions dans le public, à moins que l'un d'entre vous veuille rajouter quelque chose de déterminant, concluant et absolument extraordinaire.
Non. Ouais, si, moi je veux rajouter un truc, c'est à poil de Lee Oliven, dehors Sarkozy, et je ne votais pas l'UMP. Voilà.
Ce qui n'est pas tout à fait en tête, mais ce qui a fait.
Je ne votais pas PS non plus, parce qu'ils ont voté la Dominique au Sénat.
Voilà. En fait, ne votez pas grand-chose, parce qu'ils vont tous le voter.
Non, François Bayrou est le seul opposant crédible et avec une représentation parlementaire pour ce coup-là.
Oui.
Je précise que je n'ai pas voté pour Bayrou aux dernières élections pour être bien dédouané de ce que je suis en train de dire. N'empêche que c'est le seul coup de sa gueule en ce moment.
Oui, c'est
et que
qu'au
PS, je dirais que c'est une bande de chefs, mais je ne voudrais pas insulter nos affiliés. Donc je dirais que c'est une bande de lâches dégonflés, fils à poison.
Est-ce que quelqu'un a des questions? On va faire circuler le micro si...
Pas de questions pour les militants.
Ah. Est-ce que quelqu'un fait circuler le micro? Est-ce que je m'en charge?
Je viens
pas militant quoi que ce soit, je pense que le voteur est bien. Juste une petite réflexion par rapport à ce qui a été dit sur la musique. Il se trouve que je travaille dans le secteur musical, mais dans une association qui aide les musiciens. Il faut avoir quand même en tête que Internet, le téléchargement, on va dire, illégal, pour moi une utilité parce que ça permet de casser un petit peu des réseaux qui sont très carrés et sur une façon de faire de l'argent qui n'est pas philanthrope, qui est assez dégueulasse de l'industrie musicale. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui vivent et maintenant de plus en plus difficilement de leur musique. Et les téléchargements ne peuvent pas forcément les aider. C'est-à-dire que, évidemment, l'idée n'est pas de dire « faut pas télécharger, c'est pas bien », parce que ce serait trop manichéen à mon sens. Mais il faut quand même avoir en tête qu'il n'y a pas que Johnny Hallyday, il n'y a pas que Carla Bruni, il y a aussi des artistes qui ont besoin un peu de cet argent pour continuer à vivre, sachant que beaucoup d'artistes jeunes aujourd'hui sont soit intermittents, soit sont au RMI, donc grave dans la galère. Et si dans l'avenir, le téléchargement continue et aller sur du téléchargement d'artistes qui débutent, par exemple, à mon sens, économiquement, ça va devenir vraiment très difficile pour eux.
Alors dans ce cas-là, comment est-ce que tu expliques qu'énormément d'artistes se mettent sous licence Creative Commons?
C'est pas énormément, c'est qu'il y a une partie qui le fait, mais économiquement,
j'en ai 3500 uniquement en France,
c'est,
dans la base de données.
C'est des gens qui sont dans un certain réseau, mais le nombre d'artistes est beaucoup plus grand que ça. C'est-à-dire que si par exemple tu prends le réseau des musiciens et des groupes qui tournent sur Nantes, t'en as, mais le pourcentage de gens qui sont en Creative Commons, c'est infime. C'est des gens qui vont vendre des disques.
Pourquoi?
Ben, parce qu'ils ont besoin aussi
d'argent
en partie. Ben, certains oui, et certains ça leur permet d'avoir un petit peu d'argent en plus, quoi.
Et oui, moi, je pense que... tu sais quand même que sur 160 000 sociétaires de la SACEM, il y en a à peine 1000 qui touchent plus de 1000 euros par mois.
Mais ils touchent plus de 90%
des sociétaires de la SACEM qui ne touchent jamais rien.
Et quand tu es à la SACEM... Il y a des gens au milieu, quoi.
Oui, mais quand tu es à la SACEM, tu peux mettre, avec autorisation, des morceaux en streaming uniquement sur ton site, mais tu n'as pas le droit de mettre des morceaux en téléchargement.
Mais je comprends tes arguments, mais je te donne le côté pratiquement, moi j'ai beaucoup d'artistes et on les aide par exemple à déclarer à la SACEM.
Je comprends
c'est qu'ils font leur choix, ce que je veux dire c'est que...
Choix la SACEM.
Non mais après, je peux pas assez aux artistes de le faire quoi. Mais par rapport à Denis Oliven, au titre de son bouquin, la gratuité sur le vol, c'est une énorme connerie de dire comme ça. Mais je pense qu'il faut avoir cette notion d'aller chercher peut-être gratuitement, librement, Et le seul truc, c'est qu'il faut avoir en tête que quand même, derrière, il y a une économie qui est juste pour faire un petit peu de provocation, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais la littérature n'est pas encore trop touchée. Et donc, vous aussi, vous n'êtes pas encore trop touché par ça, mais quand le livre numérique va vraiment se démocratiser, je pense que, malheureusement, ça aura aussi un impact sur la façon que vous avez aussi de gagner un peu d'argent.
C'est génial, on va faire encore plus de ça.
C'est pareil, hein. Non,
parce que...
Il y a Google Books, hein, tu veux...
Mais quand le livre numérique va arriver, d'une part, il y aura toute l'expérience qui aura été accumulée, toutes les conneries qui auront été faites par les éditeurs du cinéma. Autre chose, dans le disque, ok, là, tu parlais des petits labels, ce genre de choses. Donc là, ils sont majoritairement dans la musique et dans le cinéma, c'est un des genres, alors que dans le livre, ce n'est pas le cas. En plus, moi, je serais le premier à vous poser à ce qu'on mette des DRM sur un de mes bouquins, quand on les produit. Si on me disait, on va te sortir ton bouquin, il va être sur Amazon, il y aura des DRM. Bah lui, elle va se faire enculer, pas question, hein. Pas de DRM sur mes bouquins, tu vois.
Roland explique peut-être tout le monde ne sait peut-être pas
ce que c'est. DRM, Digital Rights Management, les machins qui empêchent de copier les fichiers numériques. Et qui, en fait, sont... En fait, là, le DRM est vraiment très grave, c'est qu'il met des entraves au droit d'usage de la personne qui a acheté le fichier. Alors que la personne qui n'a pas payé le fichier, elle n'a pas de DRM dessus, elle n'a rien à faire. Donc c'est le truc le plus débile. Effectivement, on en parle de ça, de faire des livres, et ils vont être pourris, DRM. Mais non, justement, non, hors de question. Regarde Cory Doctorow, il a fait son premier bouquin en ligne, il a eu, je ne sais pas, 500 000 téléchargements au moins, et il en a quand même vendu plusieurs dizaines de milliers. Ce que je veux dire, c'est que les gens, c'est pas parce qu'ils auront lu le truc sur le net qu'ils ne vont pas l'acheter. Ça veut pas dire que parce qu'ils l'ont lu, ils vont l'acheter. Je pense que la différence, il y a plusieurs différences entre la littérature et la musique. Parce que finalement, un morceau de musique, tu vas l'écouter plein de fois. Finalement, s'il te plaît. Vous voyez, des morceaux, je les ai écoutés 1000 ou 10 000 fois dans ma vie. Mais il n'y a aucun bouquin que j'ai lu 1000 ou 10 000 fois. Un bouquin, je l'ai lu une fois, deux fois, trois fois, peut-être 5, 6 quand j'étais gamin. Quoi. Et là, le truc, en fait, on ne peut pas... Il n'y a aucun moyen de savoir quel va être le comportement des gens, parce que ça va être un ensemble de comportements individuels. Mais il va y avoir des gens, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récupérer le fichier à l'œil, ils vont commencer à lire, ils vont dire, ah, c'est pas mal ça. Hop, ils vont acheter le bouquin. Ils vont faire lire sur un bouquin. Et puis il y a des gens, ils vont acheter le truc à l'œil, ils vont le lire en entier, et puis ils vont dire, ouais, c'est bien. Ils vont récupérer un autre, et les gens, ils vont le payer. Plein de DRM en plus. Et puis là, ils vont se rendre compte que non seulement, ouais, c'est pas mal, mais en plus, putain, je voulais te le prêter, mais je peux même pas le passer de mon lecteur à ton lecteur, c'est chiant ça, t'as qu'à l'acheter, oh, bah non, attends, je vais aller le télécharger. Faut voir aussi un truc, on parlait de Casus Belli sur la table ronde d'avant, Casus Belli, il y avait tant d'exemplaires qui étaient vendus, je sais pas, 650 000, je me rappelle plus les chiffres, et on savait que ça correspondait à 200 ou 300 000 lecteurs, parce qu'un numéro de Casus Belli, c'était 4 ou 6 lecteurs. Et là, je veux dire, c'est pareil, pour des bouquins, dans ce cas-là, on devrait s'opposer à la vente de nos bouquins en bibliothèque et à ce que les disques soient mis en bibliothèque. Enfin, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que l'impression que je pouvais donner. Mais moi, ce que je pense, c'est que là, l'industrie musicale, je parle de l'industrie avec un grand hit, pas des petits artistes, mais enfin, on s'est droit dans le mur. Et il faudrait pas que les gens qui commencent, ou les gens qui se cherchent, ou les gens qui n'ont pas encore de succès, mais qui aimeraient bien en avoir, et ben ils se mettent dans la voiture balai derrière et qu'ils se retrouvent dans le mur avec l'industrie. Là, on est à un moment où il y a tout à inventer, on est face au choc culturel le plus important de toute l'histoire de l'humanité.
Et c'est ça qui fait peur.
Plus important. Moi, ça fait pas peur.
Je parle aux institutions.
Non, les emmerde, les institutions, elles essaient de nous empêcher de faire ce qu'on veut faire, on les emmerde. Je veux dire, ils essayent de tout fliquer, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre les MP3 dans des Boeing et puis ils vont les ramener à la frontière.
En tous les cas, ça va faire du boulot, parce que si on met en prison tous les gens qui ont des MP3 ou des DivX sur leur disque dur, il va falloir construire des prisons.
Ah oui, je voulais dire une dernière chose pour la loi sur Internet et la copie, et c'est là que vous allez voir à quel point ils sont délicieux et tout. Il est précisé que si on est pris à télécharger quelque chose qui est disponible en offre légale, la vente est majorée. Et c'est là que tu te dis, attends, si je télécharge un morceau de jazz de 1941 qui n'est disponible nulle part, qui est joué par un groupe totalement obscur, qui n'est disponible ni en CD, ni en vinyle, ni en téléchargement légal, en payant rien du tout, et là ce morceau je le veux parce que je le fais écouter à ma fille, parce que c'est ou à ma petite fille, ou à mon oncle, ou n'importe qui, et je le veux, et là je le télécharge, et on me dit, ah mais non, mais là on va vous coller une amende parce que vous n'avez pas le droit de télécharger ce morceau, ils sont copyright.
Sans oublier un petit détail supplémentaire, c'est que la loi n'est pas la même en France et aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si un truc est épuisé, il y a un truc, ça, quelque chose qui s'appelle le fair use, qui fait qu'on ne va pas vous emmerder si vous le mettez en ligne. Vous pouvez même l'uploader, tout ça, il n'y a pas de problème. En France, par contre, ça ne va pas du tout être comme ça, quoi. C'est au moindre fichier. Et puis en plus, alors comment ils vont faire les ayants droit pour récupérer leur pognon? Les petits artistes, ils n'en ont rien à faire. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est prendre les plus gros. Et il y aura 10 000. Ils vont faire une recherche sur 10 000 fichiers. C'est ce qu'ils ont annoncé, en tout cas. Et les ayants droit, là, ça c'est. Donc ça veut dire que et ça tournera un peu, mais il y aura toujours les mêmes trucs. Et parmi ces 10 000 fichiers, on ne va certainement pas trouver un seul fichier. À mon avis, il n'y aura même pas un fichier de Blanchard, quoi. Vous voyez Blanchard? Blanchard, c'est un mec, il a une carrière dans le showbiz, il a signé à la SACEP, il a fait des disques. Maintenant, il est tout seul avec son accordéon, des fois avec un perfectionniste, un guitariste, et puis il tourne dans des petits bars, dans des petits bistrots, il ne s'est jamais autant éclaté, parce que pour lui, le showbiz, c'est un véritable cauchemar. Ce que je veux dire, c'est que on se retrouve face à ça. Avant, c'était tout ou rien. C'était showbiz ou rien du tout. Là, on a l'intermédiaire. Alors, est-ce que l'intermédiaire, ça passe par les licences libres? À mon avis, oui. C'est pas sûr. Et ce qui est très clair, c'est que, même en étant le plus cynique possible, le net, en tant qu'instrument de promotion... Putain, moi, quand j'avais mon groupe dans les années 80, s'il y avait eu le net, on aurait peut-être eu plus de 3 personnes, plus de 3 d'entre elles payantes à nos concerts, quoi.
Bon, on va...
On aurait eu 5, au moins.
On va prendre une autre question, peut-être?
Ouais.
Non, tu parlais de la licence globale. Est-ce que tu peux détailler un petit peu le projet, quoi? Comment la rétribution des artistes par la licence globale se...
C'est simple. La licence globale, il y a plusieurs possibilités, mais la possibilité la plus simple, c'est une taxe sur l'abonnement Internet. Disons 5 euros par mois, avec pif. Et puis après, ça serait réparti. Et c'est là qu'intervient le problème, parce que l'internaute, lui, tranquille, il a payé sa taxe. Et après, comment on la répartit? Et l'idée serait de la répartir au prorata des ventes de disques. C'est-à-dire que...
C'est toujours les plus riches qui touchent plus.
Voilà, et ça, c'est joli, continuerait à voir se mettre plein de copes dans le nez, quoi. À nos frais.
Est-ce que nous avons une autre question?
Non.
Non. Non, personne? Bien, écoutez, comme on a largement dépassé le temps, je vous remercie pour...